Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 6 and verse 17.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 6 et au verset 17. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Et c'est là notre sujet ce matin, le casque du salut. Nous avons considéré l'armure de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. La ceinture de la vérité, de la sincérité. La cuirasse de la justice. Les sandales. Être prêt pour proclamer l'évangile de la paix. Nous avons également considéré le bouclier de la foi et nous en arrivons au casque. Le casque romain. Le casque du salut. D'année en année, nous avons entendu des prédications qui parlent de cette partie de l'armure qui protège la tête, la pensée, et les gens donnent des prédications par rapport à la protection des yeux, ce que vous voyez, et l'oreille, ce que vous entendez, et la bouche, ce que vous dites. Tout ceci est valable et nous pouvons dériver toutes ces choses du casque. Mais la chose principale, la chose clé ici, c'est le casque du salut. Et ce que l'apôtre Paul veut dire ici, c'est le salut final. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens. Ils sont sauvés. Ils ont le salut. Ils se sont confiés en Christ seul pour le pardon du péché, pour la vie nouvelle. Ils ont expérimenté la conversion à Christ. Ainsi, ils ont le salut. Mais il y a une partie de l'armure du chrétien qui va les protéger. C'est le casque qui protège l'espérance du salut. C'est là le terme utilisé par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens. C'est le casque de l'espérance du salut. Soyez sobres, c'est-à-dire vigilants, veillez, et revêtez la cuirasse de l'amour et le casque de l'espérance. L'espérance est une traduction dans le Nouveau Testament d'un terme grec qui signifie anticiper avec plein de joie cette anticipation, cette espérance du ciel des choses éternelles. Et ceci est notre armure qui nous protège. Rien ne protège la pensée, l'esprit, mieux que l'espérance du ciel pour un chrétien. Rien ne nous met dans la bonne perspective, mieux que l'espérance du ciel. C'est là ce dont parle l'apôtre Paul. Prenez aussi le casque du salut, le casque de l'espérance du salut, le salut final à la fin de votre cheminement chrétien. Quand vous êtes rendu parfait et quand le ciel s'ouvre pour vous, prenez le casque du salut. C'est là ce dont parle l'apôtre Paul. J'aimerais lire dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, lire quelques versets, au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons point courage, et si notre homme extérieur se détruit, l'intérieur se renouvelle de jour en jour, car notre légère affliction du temps présent produit en nous le poids éternel d'une gloire souverainement excellente, puisque nous ne regardons point aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses visibles sont pour un temps, mais les choses invisibles sont éternelles. Si vous voulez avoir la bonne perspective et voir les choses qui ont un poids éternel bien plus grand, la gloire souverainement excellente. C'est là ce que l'apôtre Paul a à l'esprit quand il dit dans Éphésiens 6, verset 17, « Prenez aussi le casque du salut, priez Dieu pour une perspective claire de la bénédiction céleste et éternelle. Chaque jour, gardez ces choses à l'esprit et méditez sur ces choses, parce que c'est là votre force, votre protection. » Ceci est si essentiel pour vous. Ainsi, prenez le casque du salut, le casque de l'espérance du salut. Les yeux de la foi considèrent constamment l'avenir du chrétien. Et si vous oubliez ceci, alors vous êtes bien affaibli. J'aimerais continuer avec plusieurs points ce matin. Premièrement, j'aimerais considérer comment Christ souligne l'éternité. Et j'aimerais lire dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et je vais faire quelque chose d'un peu rare, J'aimerais lire plusieurs versets rapidement dans l'évangile de Jean, pour que ceci puisse parler à nos âmes. Le thème de la vie éternelle dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 3, verset 15. Et je lis à partir du verset 14. « Et comme Moïse, ce sont les paroles de Christ, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qui ne connaît pas ces paroles glorieuses au début même de l'évangile de Jean? Et les disciples connaissaient ces paroles dès le début du récit de l'évangile que Christ est venu pour amener la vie éternelle, le grand thème de l'évangile. Et dans Jean chapitre 3, verset 36, pour vous rappeler que Christ souligne la vie éternelle, ce thème, tant de fois. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est là la plus grande œuvre de Dieu, non pas la création. Elle est spectaculaire, merveilleuse. Et au-delà de ce que nous pouvons comprendre, mais il y a quelque chose de plus grand que la création de l'univers. Et Dieu qui soutient l'univers, c'est l'œuvre de Christ. Dieu le Fils est venu dans une personnalité humaine, il a souffert, il est mort à la place des pécheurs. Il a pris notre condamnation éternelle sur lui-même, il a vécu une vie d'une perfection telle, sous toute forme de difficulté, de tentation, qu'il mérite la bénédiction du ciel pour tous ses enfants. Celui qui croit au Fils... Voyez-vous ce qui est derrière ces paroles? C'est la chose la plus grande. Vous croyez dans la création du monde, par la parole de Dieu. En quelques jours, à sa parole, le monde a été créé. C'est extraordinaire. Mais il y a une œuvre encore plus grande que celle-ci. Et vous pouvez voir que c'est une offense contre Dieu que de rejeter la plus grande œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ dans la rédemption. Si nous ne reconnaissons pas, si nous n'acceptons pas et que nous n'aimons pas son œuvre, c'est quelque chose de central, d'essentiel. Celui qui croit au Fils, à la vie éternelle, est-ce que vous voulez la perfection? Une vie pleine de bonnes choses, de choses merveilleuses? Être une personne pleine de bonté, qui aide les autres? Vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez aimer l'œuvre de Dieu en Christ. C'est là la chose la meilleure que vous pouvez faire. L'Écriture dit « Celui qui fait le bien a la vie éternelle. » Quel bien avons-nous fait? Nous avons fait ceci, et même ceci, c'est un don de Dieu par sa grâce. Nous avons aimé l'œuvre de Dieu, nous avons compris l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ dans la rédemption. Comprenez ceci dans ces versets. « Celui qui croit au Fils » à la vie éternelle, c'est la chose la plus grande que vous pouvez faire. Il a la vie éternelle. Mais c'est par la grâce que vous le faites, et c'est là votre récompense, la vie éternelle. Mais je n'ai pas visité les malades, ceux qui étaient emprisonnés, je n'ai pas donné aux pauvres. Non, mais vous avez aimé Christ. C'est une œuvre encore plus grande que le reste, et vous l'avez aimé pour ce qu'il a fait. Celui qui croit au Fils à la vie éternelle. Mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie. Peu importe ce que vous avez fait ou ce que vous pensez de vous-même, parce que c'est là le plus grand acte d'obéissance que d'aimer Christ et son amour de rédemption. Et je dois accélérer. Jean chapitre 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Toute votre vie, si vous êtes sauvé, toute votre vie vous prépare pour l'éternité. C'est là ce que ce verset signifie. Si vous êtes converti à Dieu, que vous le connaissez, que vous marchez avec lui, Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai, la vie nouvelle qui est en vous, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Il y a une œuvre qui se passe en vous pour vous préparer pour l'éternité. C'est là la chose la plus importante dans votre vie. C'est une petite illustration, mais pensez à un prince qui est préparé pour plus tard accéder au trône. Tout est planifié dans sa vie pour le fortifier, pour l'éduquer, pour le former, pour régner sur son peuple. Et il sera bienveillant et bon, et un bon règne, tout contribue à son règne futur. Et de même pour nous, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. C'est en vous, toute expérience qui se passe dans votre vie, que le Seigneur permet tout ceci, fait partie d'une formation pour votre vie éternelle, votre futur éternel. Quelle œuvre dans la vie du chrétien! Dieu a l'éternité à l'esprit. Nous pensons qu'il a cette vie à l'esprit, ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il fera pour moi à présent sur cette terre, comment il va me bénir de cette manière, de cette autre manière. Non, levez les yeux, tout ce qu'il fait dans votre vie, c'est pour votre avenir éternel, pour l'éternité, pour la gloire céleste. C'est là le but ultime de Dieu. Et nous voyons ceci dans ce verset 14 du chapitre 4 et au chapitre 5, verset 21. Ces choses que nous apprenons par rapport à l'éternité, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. C'est sa puissance. Et il a démontré sa puissance par la résurrection. Le Fils est ressuscité des morts, il a la puissance de donner la vie. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. La vie éternelle. Et au verset 24, « en vérité, je vous dis, c'est là une promesse divine. Dieu donne cette promesse. En vérité, je vous dis, je vous déclare d'une manière solennelle. C'est une promesse de Dieu que celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie en croyant simplement. Il est passé de la mort à la vie. Il a été transféré de la mort à la vie. Quel transfert ! Parce que vous avez cru en Christ. Cette grande œuvre de Dieu, la plus grande œuvre de Dieu dans la rédemption. Et au verset 39 du même chapitre, où j'espère que vous n'êtes pas fatigués du fait que je lis ces versets, nous pouvons apprendre quelque chose de chaque verset qui parle de la vie éternelle. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Les Juifs étaient dans l'erreur. Ils sondaient les Écritures pour voir la preuve que les Juifs, à cause de leur race juive, ont la vie éternelle parce qu'ils sont juifs. Mais ceci n'est pas dans la parole. Il n'y a aucune promesse qui dit qu'une certaine nation a un privilège de naissance dans la vie éternelle. Non, vous sondez les Écritures, dit Christ. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce que vous trouvez dans les Écritures, c'est Christ. Comment il vient? Comment il va donner la vie éternelle? Tout est en lui. C'est lui qui donne la vie éternelle. Et nous la recevons en croyant en lui. Et vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. C'est un verset qui parle de la vie éternelle. Et au chapitre 6, au verset 27, « Travaillez non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Voyez-vous ce verset ?« Travaillez non point pour la nourriture qui périt, le succès sur cette terre, les richesses, la prospérité, des choses terrestres et qui sont de la chair. Mais vous voyez l'autre partie dans ce verset. Mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Ce verset commence avec « Ne travaillez pas pour les choses qui périssent. » Mais la vie éternelle, ces choses qui ne périront jamais, vous n'y travaillez point, ces choses vous sont données. C'est là le contraste, la différence que nous voyons dans ce verset. Car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. Au chapitre 6, verset 35, « Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Tout est là, en lui. Et vous devez croire en lui. C'est comme manger de ce qu'il vous donne et consommer ces choses alors que vous dépendez de Christ à la croix du calvaire pour vous sauver de la culpabilité et du péché. Et au verset 39 et 40, « Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Que de le voir, lui, dans sa gloire, et d'avoir la sécurité absolue. Nous pourrions lire tant de versets, mais le temps passe. Verset après verset, dans l'évangile de Jean, ceci parle de la vie éternelle. Je suis venu à Christ, je lui ai demandé son pardon, je me suis confié en son sang, il m'a donné une vie nouvelle, je marche avec lui, il me dirige, il me bénit. Oh, mais c'est bien plus que ceci. Ceci parle de la vie éternelle, le servir, l'aimer, le voir pour toujours. Pensez à ceci, méditez sur ces choses, et que ces choses soient précieuses pour vous, et louez le Seigneur pour cela, parce que c'est là ce dont parle la parole, c'est la chose la plus importante. Et j'en arrive à mon deuxième point, parce que le temps passe. Mais mon deuxième point, c'est l'étendue du casque de l'espérance du salut. Rapidement, si vous méditez sur le ciel, sur l'au-delà, sur le dessein de Christ pour vous, son plan pour vous, alors ceci vous donne une bonne perspective. Dans chaque difficulté de la vie, dans chaque épreuve de la vie, dans chaque triomphe de la vie, tout est vu dans une bonne perspective. Quelqu'un m'a demandé, « Pasteur, que pensez-vous des mariages ? Est-ce qu'un mariage devrait être simple ? Ou est-ce qu'un mariage devrait être quelque chose de grandiose, une grande célébration ? » C'est difficile d'y répondre, parce que si le mariage est trop simple, peut-être que nous n'apprécions pas suffisamment la solennité du mariage, l'importance des promesses, la bénédiction du mariage, la profondeur du mariage. Ainsi, un mariage doit être une occasion importante, parce que ceci change notre vie. Je n'ai pas besoin de vous dire ceci. Ceci est extraordinaire, c'est un engagement absolu de deux personnes l'une à l'autre, de s'aimer et de se servir l'un l'autre, de s'honorer l'un l'autre et d'être un, de manière à ce que rien ne les divise, ne les sépare. Ainsi, ça doit être une occasion importante. Mais d'un autre côté, si le mariage est si grand, célébré et que on dépense tant d'argent et qu'on loue le plus bel hôtel du pays et que tout est si fantastique, alors vous avez perdu la perspective du ciel, parce que après tout, la chose la plus importante par rapport au mariage, c'est que nous sommes héritiers ensemble de la grâce de Dieu, de la grâce de la vie éternelle. Nous nous aidons l'un l'autre dans ce grand objectif. Et cette célébration de cette unité ne doit pas éclipser le grand but et la destinée et le but de notre vie et du mariage. Ainsi, la réponse à cette question, c'est nous devons avoir un bon équilibre. C'est une occasion importante, un mariage. Mais ce n'est pas la chose la plus importante dans le monde. Mais c'est le ciel, la gloire. Nous sommes co-héritiers du ciel. Pensez au ciel, alors vous aurez une bonne perspective. Les choses seront mises en place dans votre vie. Pensez beaucoup au ciel. Ceci va mettre à la bonne place vos ambitions. Et ceci va vous aider à ne pas rechercher les choses pour vous-même ou à rechercher le luxe, la richesse. Non seulement vous aurez les bonnes perspectives, les bonnes priorités, ceci vous aide également à avoir le réconfort du Seigneur dans les souffrances, dans les sacrifices, dans les difficultés de la vie chrétienne. Cette grande consolation, c'est la vie éternelle. Ainsi, je ne vais pas avoir pitié de moi-même si je suis dans un chemin difficile et que le Seigneur m'a amené en cela. Parce que la récompense éternelle, qui n'est pas méritée, mais qui a été payée par Christ à ma place, ceci est au-delà de ce que je peux décrire. Et ensuite, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Quand je loue Dieu dans la maison de Dieu, je chante ses louanges, je dois penser au ciel. Oui, les bénédictions terrestres également, mais n'oubliez pas les bénédictions célestes, ces choses les plus grandes, les plus importantes. Est-ce que vous êtes enclin à souffrir de dépression? Je ne parle pas peut-être d'une dépression clinique, quelque chose pour lequel vous avez besoin d'une aide médicale, une maladie, et vous avez besoin d'être aidé par un médecin. Je parle d'une dépression ordinaire. Alors, méditez sur le ciel, pensez à vos bénédictions qui vous attendent au ciel. Et alors, une dépression ordinaire va trouver un remède en cela, et vous aurez un bon équilibre. Votre bonheur, votre paix, votre joie devraient dépendre de votre pensée du ciel. Est-ce que vous pensez beaucoup au ciel? Alors, vous serez prêt à donner aux autres. Ceci sera une énorme différence sur les offrandes que vous allez donner, parce que vous n'allez pas garder ces choses pour vous-même de manière non nécessaire. Pensez au ciel, et alors vous allez donner vos offrandes pour le Seigneur. Pensez au ciel, alors vous serez riche en bonnes œuvres, et vous serez une aide partout où vous le pouvez pour les autres. Pensez au ciel, alors vous allez renoncer à vous-même bien plus facilement, et vous ne serez pas emporté. Pensez au ciel. Alors, ce sera une différence énorme pour votre témoignage, parce que vous verrez les autres personnes comme étant des gens qui sont perdus, sans le ciel, sans la bénédiction de Dieu, sans espérance, sans espoir, et vous allez avoir un cœur pour les perdus, et vous allez leur parler de Christ, prier pour eux, intercéder pour eux. Est-ce que vous n'avez pas de ministère d'intercession? Est-ce que vous n'avez pas une liste dans votre Bible de noms que vous amenez devant le Seigneur dans la prière et vous plaidez pour leur salut? Peut-être que c'est parce que vous ne pensez pas au ciel. Et vous voulez la protection de la vérité. C'est là la responsabilité de l'Église, de protéger l'Évangile, le message du salut, si nous pensons au ciel. Alors, nous allons protéger la vérité, défendre la vérité, parce que les gens ne peuvent pas être sauvés sans la vérité. Les gens ne peuvent pas être convaincus de péché, chercher, trouver le Seigneur sans la prédication de la vérité. Ainsi, si nous diluons la vérité, alors nous sommes en souci. Et nous en revenons au pardon. Un bon mari, une bonne épouse, est-ce que vous avez oublié que vous êtes co-héritiers, héritiers ensemble du ciel? Ceci vous aide pour vous assurer que votre mari, votre femme est destiné à la gloire céleste. C'est là le but le plus important. Pensez à la patience du Seigneur qui va vous amener au ciel. Tant de fois, nous chutons, nous trébuchons, et nous sommes si insensés. Est-ce que nous sommes séparés de Dieu? Non, la grande patience de Dieu, il nous répare, il guérit nos blessures, il nous ramène à lui, et de même, nous devrions faire la même chose l'un pour l'autre, époux, épouse, et être près l'un de l'autre, dans l'amour, dans le respect, nous sommes héritiers ensemble de la vie éternelle. Le ciel nous aide en chaque aspect de notre vie. Ainsi, ces choses sont précieuses pour nous et nous y réfléchissons. Quelques paroles, parce que le temps passe, sur la mort du croyant, le ciel. Chers amis, le croyant, comme vous le savez, ne peut pas, strictement parlant, mourir. Il a reçu la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur. Au moment même où la lumière de ce monde s'éteint, la lumière de l'au-delà s'allume pour le croyant. Vous allez entrer dans l'éternité. À quoi est-ce que ça ressemble que de passer le seuil de l'éternité? Peut-être dans la souffrance, dans la confusion. Cependant, au moment même où ceci se passe, où vous êtes transféré de la mort à la vie, l'âme est rempli d'une espérance que l'on ne peut pas exprimer. Vous êtes émerveillé et vous savez que votre âme va dans la gloire éternelle et vous êtes emporté au-delà de l'espace, du temps, dans la présence même de Dieu. C'est quelque chose que vous savez. Il y a un cantique remarquable de Philippe Doddridge et j'aimerais lire quelques couplets. Le chrétien qui fait face à la mort. « Ô mon âme, voici la vallée sombre que tu dois traverser, remplie de terreur et dangereuse et qui mène au sépulcre. Ô ma chair d'argile, toi qui as partagé pendant si longtemps mes difficultés, sur ce chemin tu es déchiré de douleur, de regret et de pleurs. Mais voici un fleuve de lumière, plein de splendeur divine, resplendit au travers de ce triste royaume de ténèbres et illumine la vallée. » Oui, ceci va au-delà de ce que l'être humain peut exprimer et vous êtes rempli de ce sens de la sécurité en Christ et une joie pleine de gloire, dit l'apôtre Pierre, que l'on ne peut pas exprimer. Quel moment remarquable, la plus grande aventure qu'un être humain peut expérimenter quand l'âme est pleine de lumière, d'espérance, ce grand jour est arrivé et vous rencontrez Christ, votre Créateur. Nous avons lu ceci dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui parle de la résurrection du corps et c'est la même chose pour l'âme. À la mort, votre âme quitte le corps et va dans la présence de Christ, dans le paradis de Christ, en attendant la résurrection du corps à la fin du monde. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. D'entrer dans la gloire, quelle chose extraordinaire! Des choses merveilleuses, chers amis. Toute souffrance a disparu. Toute fatigue, tout épuisement a disparu. Plus de crainte, plus d'anxiété, d'angoisse. Ces choses ont disparu pour toujours. Plus de chagrin, de douleur. Plus de péché, les péchés du cœur en nous, tous disparus. Quelle sensation de pureté, toute infirmité, toute faiblesse disparue. Mais la chose la plus importante, la plus grande, la plus merveilleuse, où il y aura ce repas des noces, l'Écriture ne nous parle pas en termes très clairs de ces choses, mais nous avons toutes sortes d'informations. Certaines choses dans les paraboles de Christ, un accueil, bien, bon et fidèle serviteur. Oh, il y a un repas des noces. Si le Seigneur dit ceci dans ses paraboles, alors ça doit refléter la réalité. Quel sera ce repas des noces? Le repas du roi des rois? Oh, à quoi est-ce que ceci peut ressembler? Qui sera là? Qui pourra vous accueillir? L'armée des anges? Le Seigneur lui-même? Quelle chose extraordinaire que de voir le Seigneur, les gens qui vous ont précédé, ceux que vous aimiez, une scène remarquable, peut-être que des milliers vont vous accueillir. Les gens que vous avez oubliés depuis longtemps et qui ont joué un rôle dans votre vie. Des choses extraordinaires, mais il y a cet accueil au ciel, mais que de le voir lui, Christ, que de voir le Sauveur. Oh, nous ne pouvons pas décrire comment il va apparaître à nos yeux. Sa gloire est au-delà de ce que l'être humain peut décrire. Et nous serons pleins de connaissances. Et il y aura les héros de la foi. Les chrétiens se demandent souvent, est-ce que j'aurai l'occasion de parler à quelqu'un? Et ils pensent à quelqu'un qui est important à leurs yeux. Tout le monde veut parler à Isaac Watts et Charles Wesley et tous les grands auteurs de cantiques. Est-ce qu'ils seront là? Oui, bien sûr. Chers amis, vous aurez toute l'éternité. Vous aurez une telle connaissance quand vous allez entrer au ciel, vous allez comprendre tant de tout ce qui s'est passé dans votre vie. Et tout le plan de Dieu sera évident pour vous et clair, et vous allez explorer ces choses, et vous serez émerveillés devant Christ. Oh, notre temps est passé, chers amis, le casque de l'espérance du salut. Portez-le jour après jour. Et priez Dieu pour qu'il vous le donne. C'est là votre grande vision pour la vie chrétienne. C'est là votre but que de voir et d'être avec le Seigneur. Oh, combien ne serons plus sincères pour plaider pour le salut des âmes et nous parlerons du Seigneur, nous témoignerons pour lui. J'allais dire une ou deux autres choses, Mais peut-être que je dois m'arrêter là. Le casque de l'espérance du salut. En revêtant l'armure de Dieu, n'oubliez pas le casque de l'espérance du salut.